Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Sexe et BD ce soir au programme.
Et oui, on va dire des nouvelles manières de représenter le désir ou l'amour. En tout cas,
je dis pas pareil, moi. Sexe et BD, moi.
Sexe et BD, eh ben, c'est une des questions. En tout cas, non, c'était une des entrées.
C'est une des entrées, je vous en prie.
Possible, en tout cas, d'un article d'Actua BD assez récent, mais ce n'est pas le seul, qui lui se référait à deux auteurs femmes aujourd'hui bien inscrites dans le paysage. Ce sont Si, une auteure issue du strip de la presse en ligne sur Mademoiselle notamment, et qui publiait son premier album, Le vrai sexe de la vie, fin novembre. Un album de 224 pages qui alterne les strips, les encarts didactiques, dits point Q, et des séquences sexuelles muettes, dit le journaliste, qui apporte une parenthèse esthétique à l'album. Le deuxième de ces albums est City and Gender de Julie Marot, dont la BD, vous la connaissez sans doute, Le bleu est une couleur chaude, en 2011, a inspiré le film La vie d'Adèle. Et cette fois, City and Gender est une succession de scénettes de sexualité crue. Mais si l'aspect sexuel est très bien traité, continue Actua BD, il n'est pas l'élément central de ces planches. Non, c'est plutôt l'enjeu, c'est la pression sociale et mentale, disons. Dans ces deux albums, on est assez loin de la manifestation caricaturale de la puissance sexuelle. Au contraire, écrit Actua BD chez Si, les échecs sont mis en avant, des pucelages compliqués et des bandages en série au programme. Concernant le dessin, là encore sur Combini.fr, Bérénice Rebuffat constate, concernant Julie Marot, les images sont explicites, mais il n'y a aucune vulgarité. L'artiste développe une esthétique qui lui est propre en ajoutant des dessins plus flous au crayon. En tout cas, ses productions, c'est ça qui est important, s'inscrivent dans une double tendance. À la fois, l'album unique dont vous parliez a franchi de certains codes, et puis l'intérêt pour une forme de sexualité plus subtile que la pornographie de divertissement, notamment de la part de femmes scénaristes, souvent aussi dessinatrices, sans fausse pudeur, sans vulgarité, et avec une grande humanité, continue le journaliste, elles entendent des relations sexuelles vécues ou peu glorieuses. Ce sont des pans entiers de notre quotidien, trop souvent tus dans des œuvres de fiction. D'ailleurs, Si travaille à partir de témoignages. Esthétiquement, j'en ai dit un mot, vous en parliez aussi à propos de Bastien Vivès, mais ces bandes dessinées à la fois crues donc, et sentimentales dans le scénario sont souvent aussi, on pourrait dire, entre le fantasme et le pur documentaire dans le dessin. Les personnages peuvent être quasi schématiques chez Si, par exemple, beaucoup plus expressifs chez Julie Marot ou chez Bastien Vivès dans Une sœur. Je le cite d'ailleurs, je ne voulais pas être dans le côté docu, le réalisme à tout prix, ce n'est pas quelque chose que je recherche, je préfère vraiment que ce soit crédible plutôt que réaliste, disait Bastien Vivès à Vincent Brunner dans Slate. Slate qui analyse, c'est un album subtil et léger qui tient plus, effectivement, vous le disiez Antoine, d'une version contemporaine des films de Diane Kouris que de Larry Clarke. Le résultat, en tout cas, c'est Jean-Christophe Augier qui le disait sur France Info récemment, une ou deux scènes de sexe explicites qui n'ont du coup rien de choquant, d'où l'aspect aussi peut-être de récits d'initiation, voire de fables, souvent de ces bandes dessinées. Les histoires courtes et les scénettes se multiplient. C'est donc une diversification du potentiel narratif, mais il y a aussi un peu de tout, parfois du plus sombre, comme La nuit mange le jour, cru et radical, cet album, dit Jean-Christophe Augier. Il poursuit, c'est l'exploration des faces sombres de la psyché, de l'homosexualité masculine. Effectivement, c'est un dessin plus réaliste et comme souvent dans ces cas-là, en noir et blanc. Le spectre, d'ailleurs, de ces dernières années est beaucoup plus large. Les éditeurs ont lancé des collections dédiées depuis environ 10 ans, comme BDQ en 2010 chez les Requins Marteaux, notamment, avec des titres là comme Beat Fighter ou Les Melons de la Colère. Là, c'est un album de Bastien Vivès qu'il a lui-même qualifié d'exutoire. Là, ça va de la pornographie délicate de Comtesse, d'Aude Picot, à un univers plutôt débridé et loufoque, disons, de cartoons hyper sexualisés et volontairement grossiers qu'on retrouve dans Teddy Beat ou bien Plan Plan Cucu, bande dessinée d'Anouk Ricard que vous connaissez sans doute parce que c'est elle qui a fait Coucou Bouson. C'est donc l'ère de la BD 100% sexualité mais zéro culpabilité, comme le dit Bérénice Rebuffat dans Combini. Mais la formule est donc trop simple pour couvrir tout le paysage de la sexualité dessinée aujourd'hui. Dans le classement des 20 meilleures ventes du genre à la FNAC dont je pourrais vous reparler, les classiques d'ailleurs comme Le Déclic de Manara ou bien Druna sont toujours présents. Pas moins en tout cas que ces albums, cette nouvelle bande dessinée X joue sur les codes de la pornographie parfois, mais sur le mode de l'humour souvent, du roman ou du documentaire. Alors la nouvelle BD érotique se veut bandante et stylée, comme disait Aurélie Champagne dans le Nouvel Obs en 2012. Et la seule question que je pourrais vous poser à partir de là, c'est la pornographie dessinée de divertissement n'a-t-elle plus d'avenir?
Ah, c'est la question. Alors, Antoine Guillot, début de réponse.
A-t-elle encore un avenir, diantre? Moi, je retiens surtout de ce que vous avez dit à l'instant, que chaque fois qu'on veut dire du bien d'une bande dessinée où il y a du sexe, on va dire, mais si regardez, c'est sans vulgarité, il n'y a aucune vulgarité. Moi, c'est plutôt ce qui m'intéresse à creuser, c'est-à-dire que tant qu'à parler de sexualité, allons-y franchement, et c'est ce que fait très bien la collection BDQ des requins marteaux, parce qu'ils reprennent le principe des pockets de gare pornographiques des années 70, type Elvie France, qui n'existe plus du tout, pour le pousser parfois assez loin, d'ailleurs artistiquement parlant, dans quelque chose de soit de très drôle, de complètement délirant, soit Les Melons de la Colère, c'est une œuvre assez poignante à y regarder, c'est un drame familial de gens disproportionnés sexuellement et qui en souffrent énormément. On atteint des choses assez étonnantes. Après, toutes ces bandes dessinées qui veulent représenter la vraie sexualité des gens s'inscrivent dans un courant qui existe quand même depuis très très longtemps, notamment aux États-Unis avec les bandes dessinées de Joe Matt par exemple d'un côté, ou Omaha the Cat Dancer de l'autre, qui était du feuilleton, du soap opéra avec des scènes sexuelles. Donc on réinvente pas grand chose. J'ai l'impression que ça s'inscrit plus dans un courant qu'on retrouve dans la littérature young adults, etc., où maintenant on peut plus faire des histoires de romance, il faut faire des histoires de romance avec sexualité. Donc on a maintenant les histoires de filles, les blogs de filles qui vont raconter la sexualité. Après, tout dépend de la qualité. Moi, le livre de Julie Marot, je dois avouer que ça m'est tombé des mains, parce que c'est alors là, c'est tout le contraire de Bastien Vivès dans la représentation des corps. Il y a quelque chose d'extrêmement pesant qui marche pas du tout. Mais on trouve dans ces nouvelles collections, il y a aussi la collection Erotics chez Delcourt qui sort des choses intéressantes. Je peux en citer deux qui viennent de sortir. La réédition du livre de Gilbert Hernandez, Jardin d'Éden, classique américain justement, qui donne une version très pornographique de la Bible, qui était faite à l'époque pour un peu énerver les puritains américains. Ça marchait très bien, c'est assez rigolo à lire, même si c'est un peu raide, hein, c'est juste dans le dessin. Et ce livre que j'ai trouvé très charmant, qui s'appelle Heidi au printemps, d'une autrice, précisément, qui s'appelle Marie Spénal, et qui raconte l'éveil à la sexualité d'Heidi après la fin du livre, et découvrant que voilà, ne perdre sa virginité avec un jeune garçon, Peter le berger en l'occurrence, n'est pas forcément épanouissant. Et c'est tout à fait joli, tout à fait délicat, sans aucune vulgarité, même si sexuellement c'est souvent assez explicite. Donc c'est un territoire après qui est intéressant quand on donne une sexualité à des personnages qu'on construit réellement. C'est de dire, regardez, on va parler de la sexualité d'aujourd'hui, c'est souvent très ennuyeux, je trouve. C'est plus intéressant de développer un personnage qui a par ailleurs une vie sexuelle qu'on peut montrer comme elle se fait.
Bien, après cette longue analyse d'Antoine Guillot, Joseph Gosn.
Je crois que la représentation de la sexualité en bande dessinée est partie d'un moment assez fort, qui était le moment dans les années 60 de l'underground, en fait, et où depuis, à chaque fois, la sexualité ou sa représentation sert à marquer une époque qui passe. Donc au départ, c'est effectivement Crumb, mais c'est aussi d'autres auteurs beaucoup moins connus qui l'utilisent pour s'exprimer autrement et créer d'autres façons de faire et de dessiner. Puis ça passe dans un mainstream beaucoup plus global, effectivement, avec le succès d'un livre comme Le Déclic dans les années 80. Et à partir de là, se pose la question de qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ces histoires de cul, finalement, qui, d'un côté, étaient réservées au rayon, justement, érotique des librairies, avec une production, que ce soit Elvie France dans les kiosques, ou des productions, notamment en France, de Georges Lévis, si je me souviens bien, où il y avait pas mal de, où il y avait une production vraiment très, 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 très forte dans les années 70-80. Et tout ça, j'ai l'impression, a été repris dans les années 90 et 2000 par la bande dessinée indépendante, qui a dit oui, on peut représenter le sexe, mais de manière beaucoup plus intimiste et s'en servir comme à peu près toutes les autres thématiques qui nous intéressent. Et puis c'est arrivé, j'ai l'impression, à une sorte d'épuisement, et que depuis ça repart dans les années récentes sur tout à fait autre chose, qui est le sexe comme territoire d'expérimentation. Et de recherche un peu outré. Effectivement, dans la collection que vous citiez, Requin Marteau, il y a vraiment de ça. Les livres sont assez expérimentaux, en fait. Et je pense surtout à un auteur américain récent que j'aime beaucoup, qui s'appelle Benjamin Marat, dont un livre a été édité, je crois, à Requin Marteau d'ailleurs, en France, qui est vraiment dans l'outrance, c'est-à-dire dans la représentation de personnages dont la sexualité fait partie du quotidien, mais d'un quotidien très violent. C'est un personnage un peu, c'est une sorte de James Bond moderne qui est à la fois en train de tuer, de baiser, pardonnez-moi l'expression, à gauche, à droite, que ce soit homme ou femme d'ailleurs. Donc on est beaucoup dans cette outrance-là qui sert à raconter des histoires de manière sans doute plus dynamique, plus étrange, peut-être aussi plus vulgaire. Et récemment, dans la bande dessinée, la vulgarité et le mauvais goût, parce qu'il y a aussi ça, comme le disait Antoine, sont devenus des champs à explorer, parce que tout le reste est quand même, c'est beaucoup passager.
Oui, parce que moi qui ai grandi dans les années 70 avec des parents qui étaient abonnés à Actuel, effectivement, la BD sexuelle, il y en avait quand même un sacré rayon, et ça faisait partie d'une autre façon aussi de raconter les histoires. Il y avait quand même beaucoup d'obsédés sexuels très avancés, mais ça a donné aussi, enfin, c'est les Paulette de Wolinski, enfin, toutes ces BD-là qui ne datent pas d'hier, et qui justement, faisaient, non pas le pari, mais qui affichaient la vulgarité comme principe aussi narratif, et qui s'offusquait pas de montrer, je vais pas dire, de montrer ce qu'il y avait à montrer, voilà, en mettant les deux pieds dans le plat. Vous avez Martiné ?
Oui, je voulais vous parler de ce classement des ventes, mais peut-être avant ça, ce que vous disiez, Joseph Ghosn. Et effectivement, il y avait cette manière, peut-être, et qu'on retrouve aujourd'hui, d'aller de plus en plus dans l'outrance en y réfléchissant. Il y a une sorte de bande dessinée, disons, érotique ou pornographique, qu'on ne retrouve plus, j'ai l'impression, aujourd'hui, et qui était un grand classique. C'était les pastiches, qui n'étaient pas faits par les auteurs eux-mêmes, quoique parfois, on voit, par exemple, Pierre Serron, qui a fait Les Petits Hommes, a aussi fait Les Petites Femmes, qu'on retrouve toujours en bonne place dans les classements de vente. Mais c'est vrai que c'était une manière aussi de pouvoir outrer à la fois le dessin, de détourner des codes, de trouver des histoires qui se référaient un peu à une sorte de classicisme, mais en même temps, effectivement, de pouvoir faire des BD vulgaires, quoi. Mais on retrouve plus ça aujourd'hui.
Il y a eu des Tintins pris à pic, il y en a eu un certain
nombre. Oui, mais ça, c'est pareil, on le retrouve dans l'histoire de la bande dessinée dès les années 30, avec les Tijuana Bibles, qui détournaient les personnages de bande dessinée ou du cinéma dans des versions très pornographiques. Après, c'est devenu un peu un système dans les années 80, notamment chez Glénat, quand il faisait Circus, qui allait aussi assez loin dans une routine presque pornographique, qu'on retrouve d'ailleurs maintenant dans la bande dessinée d'aventure, où régulièrement il y a le repos du guerrier avec une femme sublime qui, si possible, juste avant, a eu une scène lesbienne pour émoustiller. Et là, c'est devenu une tarte à la crème monstrueusement débile de la bande dessinée générale. Et à l'époque, en tout cas dans les années 80, à la chaîne, il y avait des pastiches comme ça. Il y avait même une série qui s'appelait Pastiche chez Glénat, mais alors, ne ressortez pas le pauvre Pierre Seron qui vient de décéder de sa médiocrité à l'époque quand il faisait Les Petites Femmes. C'était quand même
ce qui est intéressant, c'est le passage récent finalement d'une représentation qui part quand même de codes très hétérosexuels, très très forts comme ça, à des choses beaucoup beaucoup plus floues, à des histoires de sexualité racontée par des filles, des histoires qui mêlent aussi l'homosexualité, etc. Et c'est ce flou-là qui est intéressant.
Je disais, avec cette manière, peut-être contrairement à Manara, et c'est pour ça que c'est resté un classique, le déclic, cette manière d'intimiser effectivement la sexualité et non plus de la représenter, d'extérioriser complètement, comme c'est le cas dans Manara, avec cette petite boîte qui joue le rôle d'interrupteur de désir, justement, et qui le fait surgir en pleine société, dans un magasin, au restaurant, ou sais-je encore.
Manara, bah oui.
Ce qui était intéressant chez Manara aussi, c'est le flou que lui-même entretenait sur la boîte et sur le pouvoir de la femme. Et ça, on le retrouve peu finalement.
Antoine, Guillaume, dernier mot.
Une autre signale, une autre tendance qui va un peu avec ce que vous avez décrit, c'est la bande dessinée éducative, c'est-à-dire qui essaye de prendre un peu d'apprendre quelque chose à ses lecteurs, qui dépasse ce qu'ils découvrent très facilement. On le voit d'ailleurs aussi dans le livre de Bastien Vivès sur les téléphones portables concernant la pornographie. Et il y a une série qui marche très très fort au Japon et en France aussi, qui s'appelle Step Up Love Story et qui est réellement un manuel d'éducation sexuelle à l'usage des adolescents, très explicite, autant que les Japonais puissent l'être avec les codes de censure, mais qui rend beaucoup de services, apparemment.
Bon, voilà le conseil d'Antoine Guillaume pour clore ce petit salon.